cette invitation. Effectivement, les questions hein, qu'on aborde là, les questions de, d'édition, hein, sont des questions qui m'ont pas mal intéressé, car j'ai beaucoup travaillé avec des équipes de littérature de la Sorbonne. Excusez-moi, je cherche ma petite voix, là, c'est ça, pour ne pas dépasser du temps. Donc, avec les équipes de littérature de la Sorbonne sur les humanités numériques. Je vais l'évoquer très, 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 très vite. Alors, voilà le plan que j'ai pris. Si, donc, je vais un peu cavaler, hein, mais c'est juste pour vous donner quelques points à partir desquels on pourra réagir ensuite pendant la discussion. Bon, d'abord, rappel sur l'intelligence artificielle. Donc, j'ai pris un livre, parce que comme vous êtes des spécialistes d'édition, je trouve que c'est bien. C'est un livre écrit à la fin du 19e siècle par quelqu'un dont vous avez certainement dû entendre parler, Hippolyte Taine. Hein, et il a écrit un gros pavé en 2 tomes de l'intelligence. Et l'intelligence de l'intelligence artificielle, ce n'est pas celle que on repère chez un jeune élève en disant « Oh, il est intelligent », c'est pas le QI, hein, c'est pas l'esprit, hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire l'ensemble des capacités cognitives. Hein, et c'est ce que Hippolyte Taine essayait de faire, c'est-à-dire essayer d'utiliser les moyens des sciences physiques pour mieux comprendre ses capacités cognitives. Et vous voyez ici, hein, c'est la plaque commémorative du début de l'intelligence artificielle en 1956. Hein, c'est la première réunion sur le sujet, là où le terme est employé. Il n'était pas employé avant, même si le projet de fabriquer des machines qui résonnent existait. Et qu'est-ce qu'on dit ? Ben, on dit, voilà, hein, vous voyez, c'est une discipline scientifique qui se fonde sur la base d'une conjecture selon laquelle tous les aspects de l'apprentissage ou toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent, en principe, être décrites de façon si précises qu'on peut les reproduire sur une machine. Donc vous voyez, c'est important, hein, il ne s'agit pas de fabriquer une machine qui va avoir un esprit. Donc ça, c'est l'aspect important. Alors, présence de l'IA, hein, tout le monde fait de l'IA sans le savoir, un peu comme M. Jourdain, c'est de la prose sans le savoir. Le web, hein, c'est le couplage des réseaux de télécommunications avec un modèle de mémoire. La mémoire, c'est une faculté cognitive, ça a été introduit en 1965, c'est donc de l'intelligence artificielle, hein, qui plus est, c'était programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'inventeur de l'hypertexte, hein, mais qui reprend la notion de memory extension de Van Warbusch. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein. Vous voyez ici, vous avez plein d'autres applications de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas, bien sûr, les énumérer ici, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Alors, deuxième chose, hein, révolution récente de l'intelligence artificielle. Ça va, c'est, hein. Révolution récente, hein, c'est pour aller vite. Hein. Donc, très tôt, hein, on a essayé de reproduire ces capacités humaines. L'une des capacités importantes, c'est l'extraction de connaissances à partir de données, ça s'appelle l'apprentissage. Hein, comment on fait des machines qui acquièrent automatiquement des connaissances. Et dès le début, bien sûr, les scientifiques ont fait feu de tout bois. Hein, ils ont pris toutes les métaphores possibles. Hein, on s'est intéressé à l'homme, hein, les théories classiques de l'apprentissage, la psychologie, hein, avec les mêmes débats d'ailleurs, hein, qu'auparavant, entre l'idée, comme Aristote, hein, on modélise à partir de l'expérience, ou au contraire, on a des idées innées, hein, comme chez Platon. Hein. Ensuite, la physiologie, le cerveau, la nature, l'évolution avec les algorithmes génétiques, l'épistémologie, hein, modélisation des connaissances, la physique, hein, avec théorie de l'information, voilà. Donc tout ça, c'est juste pour rappeler ça. Mais il y a une technique qui est très importante, oui, qui a joué un rôle central, ce sont les réseaux de neurones formels. Alors ceux-là sont anciens, ils sont antérieurs à l'intelligence artificielle. Ils naissent en 1943, avec l'idée de modéliser le cerveau. Alors quel est le résultat fondamental, hein, c'est que si vous mettez les neurones en 3 couches, les neurones formels, c'est-à-dire des automates, hein, et que vous avez les connexions entre eux qui correspondent à ce qu'on sait de nos synapses, hein, c'est-à-dire hein, c'est plastique, hein, c'est-à-dire que ça évolue dans le temps, on modélise ça par des résistances qui évoluent dans le temps, et le poids, c'est la résistance. Bien, si on modélise ça, si on met les neurones en 3 couches, on peut modéliser, on peut reproduire n'importe quelle fonction logique. C'est un résultat mathématique extraordinaire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment établir les poids. Et donc, très tôt, on s'est dit, ben, on va essayer d'automatiser l'établissement des poids en donnant des exemples et puis la cible des exemples. Alors, bien sûr, on s'est cassé les dents là-dessus, et en particulier, hein, l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, Marvin Minsky, a fait sa thèse là-dessus, et ben, il s'est rendu compte que c'était difficile. En 1958, Rosenblatt trouve un algorithme pour modéliser l'apprentissage, mais ça marche sur des réseaux de neurones à 2 couches. Et ce qu'on se rend compte, c'est que bien sûr, ces réseaux de neurones à 2 couches ne sont pas universels, à la différence des réseaux de neurones en 3 couches. Donc on arrête, quelques années après, de faire des réseaux de neurones parce qu'on pense que ce n'est pas sérieux. Mais on fait de l'apprentissage, on a continué à faire de l'apprentissage. Je n'entrerai pas dans le détail. Hein, mais Ensuite, cet algorithme du perceptron, c'est intéressant, l'intelligence artificielle, c'est cyclique comme ça. L'algorithme du perceptron est généralisé en 86, ouais, presque 30 ans après. Et ça donne lieu à ce qu'on appelle la rétropropagation de gradient. Alors bon, quand on a fait des études scientifiques, on sait ce que c'est un gradient. Un gradient, c'est une différence. Un gradient de température, hein, c'est la différence de température entre. Hein, c'est un vecteur qui mesure une différence. Mais c'est la différence entre la sortie obtenue et la sortie désirée. Et rétropropagation, on propage en arrière sur les poids synaptiques cette différence. Ça donne des résultats, mais c'est extrêmement poussif. Hein, et les ordinateurs sont peu puissant à l'époque, et donc à partir de 92, on arrête de faire des réseaux de neurones formels. Jusqu'à ce qu'il y ait un breton, alors bon, vous êtes à Lyon, vous êtes loin de la Bretagne, mais vous savez que les bretons ont la réputation d'avoir la tête dure. Hein, c'est un Français, donc Yann Lequin, qui était au Bell Labs et qui s'acharne sur les réseaux de neurones formels, et qui ne les fait pas à deux couches, parce que ça ne marche pas, pas à trois couches, mais il les fait à 15 couches. Et on dit que c'est profond, ça n'a rien de profond, hein, c'est simplement qu'il y a beaucoup de couches. Hein, c'est assez simple, et là, il obtient des performances extraordinaires. Et à partir de 2012, tout le monde est converti au réseau de neurones formels et on n'utilise plus que des réseaux de neurones formels. Alors, ça a donné naissance il y a eu un enthousiasme, hein, en particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, de cette machine qui l'a emporté sur le meilleur joueur du monde aux échecs, hein, avec ça. Alors, après, ça a été utilisé à partir de 2014 pour faire ce qu'on appelle les GAN, hein, réseaux antagonistes génératifs, pour construire des images. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez deux réseaux de neurones, le discriminateur et le générateur. Le discriminateur, qu'est-ce qu'il fait ? On lui donne des images étiquetées et puis il essaye de les classifier. Par exemple, on lui donne des célébrités et des non-célébrités et il faut reconnaître les célébrités. Bon, l'exemple est cocasse parce que, bien sûr, c'est totalement absurde. Hein. Et ensuite, le deuxième, c'est le générateur. Hein. Il fait des images aléatoires et ensuite, hein, il va les passer au discriminateur. Pourquoi ? C'est parce qu'on a besoin d'apprendre énormément et qu'on ne peut pas étiqueter toutes les images. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il génère des fausses images et il y en a certaines qui passent bien au discriminateur. Et donc, ça, ce sont des images générées automatiquement. Vous pouvez faire la même chose, hein, vous faites une pomme, vous faites un Picasso. Faux, hein. Il y a une équipe dans notre université qui a fait comme ça, avec ces techniques, un tableau. C'est la famille de Bellamy. Alors, j'ai rencontré François-Xavier Bellamy, je voulais lui poser la question, mais bon, il y avait beaucoup de monde, je n'ai pas osé. Donc, Édouard de Bellamy, dont le portrait a été vendu 425 000 dollars aux enchères en 2018. Alors, ensuite, il y a eu, à partir de 2017, ce qu'on appelle les transformers. Ce sont des architectures de réseaux de neurones. Alors ça, c'est vraiment important. L'idée, c'est d'extraire l'esprit de la langue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit de la langue ? Hein, j'imagine que parmi vous, il y en a pas mal qui ont fait des études de linguistique. On ne sait pas, hein, mais c'est l'idée qu'il y a des relations invisibles entre les mots ou entre les parties de mots, qu'il faut que certains mots se comprennent, que certaines phrases se comprennent, sans avoir besoin de connaître toute la grammaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais c'est ce qu'on extrait ici. Hein. On mémorise l'esprit de la langue. Alors, pour ça, on fait des modèles de langue, et avec l'idée que ces modèles de langue vont être utilisés, quand on les spécialise, dans différents traitements automatiques, techniques de traitement automatique de la langue, résumé, module question-réponse, et puis génération automatique de texte. Bien sûr, c'est pour ça que c'est extrêmement connu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, hein, on entraîne par apprentissage machine, hein, sur d'immenses corpus des centaines de milliers d'ouvrages. Alors, vous savez ce que c'est, des centaines de milliers d'ouvrages, c'est beaucoup. Hein, hein, c'est le dixième de la Bibliothèque nationale de France, disons grosso modo. Hein, et avec des réseaux de neurones, alors là, c'est vertigineux, ils contiennent des centaines de milliers de milliards de connexions. Alors là, c'est absolument incroyable. Alors, à partir de ça, donc, je voulais vous faire un résumé, hein, de ce qu'était l'IA. Puis maintenant, je voudrais poser un certain nombre de questions. Alors d'abord, ce qu'on appelle les humanités numériques. Alors, qu'est-ce que c'est que les humanités numériques ? L'idée, c'est que c'est reconduire les disciplines d'érudition traditionnelles avec les outils du numérique, hein, qui profite de la numérisation du contenu. Alors pourquoi je vous présente ça ? Parce que je vais vous parler un peu de moi, hein, mais bien sûr, il y a plein d'autres applications des humanités numériques, par exemple dans le domaine de l'archéologie, hein, avec des modélisations 3D, hein, mais là, on va parler plutôt de ce qui est lié au texte. J'ai beaucoup travaillé avec une équipe de l'ITEM, Institut des textes et manuscrits modernes, qui sont des spécialistes de génétique textuelle. peut-être que, hein, donc ils comparent des brouillons d'auteurs. Et je leur avais, ça fait longtemps, hein, 15 ans, hein, j'avais fait un petit logiciel pour comparer les versions de texte, hein, en reprenant les opérateurs de la génétique textuelle, c'est-à-dire la suppression, l'insertion et surtout le déplacement. Et donc ça, c'est très intéressant. Vous voyez ici, hein, vous avez une petite nouvelle d'André Chédid, on n'a pas le temps de regarder dans le détail. Vous regardez entre la première et la dernière version. Et donc cette nouvelle, dans un recueil de nouvelles qui est dédié à sa mère, qu'elle adore vraiment, hein, et vous regardez. Et puis il y a des petits détails qui sont très intéressants. Vous voyez par exemple, hein, au début, elle nous aimait, nous nous sentions aimés par elle, hein, et elle déplace, elle nous aimait, ça passe après. Et elle nous aimait parfois avec abnégation, reculant dans l'ombre, et puis ensuite, elle nous aimait avec intelligence et sans abnégation. Et là, on voit bien sûr qu'elle est en train de régler ses comptes avec sa mère dans la réécriture du texte. Enfin voilà, c'est juste pour vous donner un tout petit exemple, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Et ça, ça conduit à de nouvelles éditions. Par exemple, hein, on a fait une édition de Ferdinand Ramuse, qu'il a, c'est pas très loin d'ici, hein, c'est en Suisse. Hein, c'est... et donc, il a écrit des romans, et il a fait plusieurs éditions de ses romans, à plusieurs années d'intervalle, et donc on a comparé les éditions de ses romans, et on a fait une édition donc chez ici, hein, c'était chez Slatkin, voilà, c'est ça, hein, met en évidence justement ces différents changements. Alors bien sûr, c'est pourquoi, bah, parce que sur une édition papier, on ne peut pas le faire, hein, surtout s'il y a plus de 3 versions, hein, donc on ne sait pas comment les mettre, puis de toute façon, on ne verrait rien du tout. Parce que là, on peut naviguer, puis on peut voir des statistiques pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'il a réécrit ses romans? Est-ce qu'il a rajouté des helvétismes? Au contraire, il en a supprimé? Est-ce qu'il l'a fait dans les éditions françaises? Est-ce qu'il a supprimé les helvétismes? Toutes ces questions ouvertes sont extrêmement intéressantes. Alors nous, on a aussi beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'intertextualité, l'hypertextualité d'ailleurs aussi, hein, l'hypotextualité, hein, vous avez toutes ces théories littéraires qui essayent d'expliquer que l'auteur n'est pas isolé, il n'est pas seul, il est dans son contexte, hein, avec tout un tas d'autres auteurs, et donc l'idée, bah, c'est de repérer des fragments communs. Hein. Alors là, on s'était amusé, par exemple, à détecter des réemplois, on a comparé les théories de physiognomie et de phrénologie, et puis des textes de Balzac, et on voit qu'il y a des descriptions de personnages, hein, qui reprennent des descriptions, hein, par exemple, hein, ces petits yeux verts percés comme avec une vrille, hein, qui reprennent, hein, les personnes qui ont des petits yeux verts, des petits yeux ronds percés en vrille, comme on dit, sont ordinairement remarquables par la finesse et la vivacité de leur esprit. Hein. Voilà, c'est ce genre de travaux qu'on peut faire, hein, puis on s'était amusé, on avait pris des accessoires de mode comme la boucle, et puis on voit un peu la garde-robe, hein, malheureusement on ne voit pas très bien, mais c'est la garde-robe de Balzac, hein, dans ses romans. Hein. Et puis, on peut avoir des visions statistiques sur les proximités d'auteurs à partir de ça. Alors, on va plus loin, et aujourd'hui, on travaille avec l'ITEM sur ce qu'on appelle l'exploitation des disques durs, puisque les auteurs modernes n'auront peut-être plus de manuscrits papier. L'idée, c'est de regarder sur les disques durs. Donc, on a un projet avec Derrida, parce que Derrida, très tôt, a utilisé un Macintosh. Hein, c'était un quelqu'un antérieur. Il s'est enthousiasmé pour ça, parce qu'il avait des copains aux États-Unis. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est que vous ayez une idée de ces perspectives nouvelles qui sont ouvertes par l'intelligence artificielle. Alors, deuxième chose, génération de publications avec les modèles génératifs dont on a parlé tout à l'heure. Alors moi, j'ai été alerté en début 2022 par un copain qui m'a dit, voilà, il y a un rapport du Committee on Publishing Ethics qui explique qu'il y a des outils qui écrivent automatiquement des articles. Et il m'a dit, effectivement, le problème dans certaines communautés scientifiques, eh ben, on a plein de papiers qui sont écrits automatiquement. Donc c'est quand même dramatique. Hein, et alors, est-ce que c'est du plagiat, hein, c'est une question. Alors vous voyez, la mémoire du futur, hein, elle sera totalement encombrée, hein, pour les éditeurs. Hein, est-ce qu'on peut distinguer le régénéré de l'authentique, hein, alors voilà, toutes ces... Alors est-ce qu'on a des façons de se prémunir? Alors la Maison-Blanche, elle avait dit, bah, tiens, on va mettre des filigranes. Hein, pour les images, ça marche bien. Hein, l'idée, c'est de rajouter dans la trame des objets générés, des éléments d'information. Hein, alors ça marche bien lorsqu'on a une forte redondance d'information, comme sur les photos et la musique, mais sur les textes, ça marche pas. Et puis, que plus est, ça marche si on a des acteurs qui sont dans un État reconnu. Mais qu'est-ce que vous faites avec des acteurs étrangers d'un autre État, hein, qui veut nous déstabiliser? Alors, ça conduit bien sûr aux questions de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que le plagiat? Alors, c'est la réappropriation, hein, frauduleuse du travail d'un autre. Hein, mais dans le cas de l'IA générative, est-ce que c'est du plagiat? Hein, puisque vous avez réutilisé les mots de tout le monde. Alors, je voudrais citer, juste pour résumer, une phrase que j'ai trouvée dans Rums de Paul Valéry. Je la lis, je la trouve merveilleuse. Plagiaire est celui qui a mal digéré la substance des autres. Il en rend les morceaux reconnaissables. J'adore le rendre, hein, parce que c'est comme le vomi. Hein. L'originalité est affaire d'estomac. Il n'y a pas d'écrivains originaux, car ceux qui mériteraient ce nom sont inconnus et même inconnaissables. Mais il en est qui font figure de l'être. Voilà, je vous laisse avec Valérie. Et puis, maintenant, je voudrais envisager un autre point, c'est celui du partage. Partage et partageux. Alors, le partage, c'est formidable. On est tous pour le partage, vous êtes d'accord? Vous connaissez la légende de Saint-Martin. Il partage son manteau en deux, et ensuite, il a un manteau trop court. Parce que dans le monde réel, ce qu'on partage, on ne l'a plus. Avec le numérique, c'est formidable, parce qu'on ne perd rien du tout. Alors, il faudrait être quand même extrêmement pingre pour refuser le partage. Et pourtant, le partage a... Donc, ça a l'air gagnant-gagnant. Et pourtant, bien sûr, il y a des limites au partage. Il y a des données sensibles à caractère personnel, bien sûr, hein, ce qui pose des problèmes. L'anonymisation, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est même impossible, l'anonymisation, hein, il ne faut pas le dire. Est-ce que c'est équitable? Et ici, hein, j'ai mis exprès des télescopes, hein, je travaille avec le CNES, et justement, sur ces questions d'éthique, ils se disent, bah oui, d'accord, on a des données. Normalement, les données astronomiques, ça appartient à tout le monde. Et pourtant, ça pose un problème, parce qu'il se peut que ce partage soit inéquitable, c'est-à-dire qu'en partageant, eh bien, on donne à des grands acteurs la possibilité de traiter, hein, et donc on soit tenu par les partages, on donne toutes nos informations, les autres vont les exploiter, et nous, on n'en tirera jamais les bénéfices. Donc, vous voyez, tout ça sont des questions. Alors, ensuite, sur la publication, le partage est formidable parce qu'on se dit les données de la science, il faut que tout le monde puisse être à disposition de tout le monde. Donc, on va partager les articles, partager les données. Mais bien sûr, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nouvelle économie de l'édition, hein, c'est-à-dire que l'éditeur, on passe du modèle lecteur-payeur, hein, mais le lecteur ne paye plus puisqu'on partage. Il faut bien faire payer quelqu'un, vous êtes d'accord? Et donc, on fait payer l'auteur. Et c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle les revues prédatrices. Je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça, je crois, peut faire l'objet de pas mal de discussions. Et puis, je voudrais terminer sur les questions de profilage et de recommandations, hein, qui me semblent extrêmement importantes. Alors, ça conduit à quoi? Ça conduit... Alors, d'abord, la génération automatique de texte, elle va conduire à des informations fallacieuses. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer n'importe quoi. Alors, bon, c'est vieux, vous allez me dire, c'est pas neuf, hein, c'est pas quelque chose qui... Hein, ici, hein, Shih Tzu dans l'art de la guerre, il nous dit, si on veut déstabiliser l'adversaire, on lui donne des informations fausses. Les libelles, hein, au XVIIIe siècle, hein, vous avez d'ailleurs quelques exemples ici de libelles, les canards, etc., la propagande, la désinformation, c'est ancien. Il y a trois dimensions nouvelles qui, je crois, sont extrêmement importantes pour nous aujourd'hui. La première, c'est la production massive industriel et accessible à tous, de son ordinateur, dans sa cuisine, n'importe qui peut fabriquer des fake news. Et ça, bon, ouais, un dessin comme celui-là, il n'est pas très beau, mais il fallait quand même faire le dessin, hein, tandis que là, on n'a même pas besoin de ça. Deuxième chose, hein, c'est, et ça c'est vraiment central, hein, c'est que vous connaissez tous Charles Sanders Peirce, hein, et les théories sémiotiques, hein, la relation du signe à ce qu'il désigne. Et vous savez qu'il y a trois catégories de signes pour Peirce. Les légisignes, hein, c'est la désignation, par exemple, A de l'alphabet, ça désigne A, c'est une convention. Hein. Les symboles, il y a une relation d'analogie entre la chose le signe et ce qu'il représente. Hein, c'est ce qu'on voit sur une peinture. Mais on sait bien sûr qu'il y a quelqu'un, il y a un intermédiaire. Et puis vous avez le troisième. Alors là, quand même, Peirce est génial parce que c'est un homme du 19e et il sent que la photo a un statut sémiotique particulier. Il dit la photo, c'est comme un index, ça vous montre la réalité. Le problème avec les fake news générées automatiquement, c'est que vous avez quelque chose qui ressemble, hein, à la réalité, mais pas seulement par relation d'analogie. Il pointe sur la réalité, vous croyez qu'il y a une réalité qui est derrière, et donc c'est beaucoup plus difficile à contrer. Et puis, le troisième point important, c'est le profilage, hein, c'est-à-dire qu'on va segmenter le public et adresser à chaque partie de la population les informations auxquelles elle est susceptible de réagir. Or, ça a des effets absolument désastreux, hein, parce que on a des sociétés de plus en plus fragmentées, hein, on détruit l'espace public, il n'y a plus de délibération collective, puisqu'on ne sait pas sur quoi délibérer, puisqu'on n'a plus la même information. Et alors, qui plus est, bien sûr, hein, on a une profusion de contenu incroyable. Hein, ici, j'ai repris le titre d'un article, d'un livre, j'aime bien le titre, La civilisation des poissons rouges. On est comme des poissons rouges, hein, on a énormément d'informations, mais on a chaque fois l'information qui nous convient, et on a une sollicitation incessante de l'attention, avec un excès de contenu. Hein, ici, hein, YouTube propose 500 heures de nouvelles vidéos chaque minute. Il faudrait à chacun de nous 30 000 ans pour regarder toute la production d'une année. Sur les livres, d'ailleurs, c'est encore pire. Et donc, crise du choix, nécessité de recommandation. Et le profilage, c'est le fait que la culture s'échange comme les savonnettes. Et ce qui se passe, c'est qu'on segmente les publics et on adresse à chacun ce qui lui convient. Mais justement, c'est le problème de la prescription. Et c'est un énorme problème. Je n'ai pas le temps de débattre ici, mais c'est un très grand problème. Et donc, je vais terminer en disant qu'il ne faut pas désespérer. Je pense que je suis à Jussieu. Lorsqu'on a reconstitué la tour Zamansky au centre, la ministre de l'époque avait dit que c'était là où il y avait l'oratoire de Saint-Victor. Et à l'époque, et tout d'un coup, ça m'a rappelé quelque chose. Peut-être que vous avez lu ce merveilleux livre de Ivan Illich, le Didascalicon sur Hugues de Saint-Victor. Alors, qu'est-ce qu'il explique ? Voilà, c'est ce livre-là. « In the vineyard of the text, a commentary of Hugues Didascalicon ». Et on nous dit Hugues de Saint-Victor. Je me suis dit, mais c'est peut-être le même. Oui, bien sûr, Hugues était dans l'abbaye de Saint-Victor au XIIe siècle. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a transformé complètement les façons de lire les textes. C'est avant l'imprimerie, mais il introduit la pagination, il introduit la ponctuation, hein, parce que vous savez qu'avant, il fallait prononcer le texte. Là, ça introduit la lecture silencieuse. C'est à l'origine des grandes révolutions, peut-être plus importantes que l'imprimerie, ce sont ces transformations progressives qui se font sur le texte, du moins c'est ce qu'explique Ivan Illich. Et ben, donc aujourd'hui, peut-être que avec les humanités numériques, au même endroit, puisque c'est comme notre, on peut introduire une nouvelle approche de la lecture et des textes, un nouvel humanisme pour le futur. Merci.